À l'écoute des Radio Capi, la fréquence de la paix, il est 18h ici à Kinshasa, 19h si vous nous écoutez à Bukavu Sud Kivu. Grâce à Mzati vous apporte les nouvelles.
Radio Capi.
À la une de l'actualité, situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il n'y a pas de solution militaire. Le dialogue doit commencer. Propos d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lors de la session d'ouverture du sommet de l'Union africaine hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Le calme est revenu ce vendredi au village Kabulo, dans la province du Tanganyika, où les jeunes patriotes Wazalendo ont barricadé la route Kalemie-Nyunzu pour protester contre la mort d'un des leurs qui serait causé par un militaire. Plus de précisions dans quelques instants. Une maladie d'origine inconnue fait des morts à Bomaté, dans le territoire des Bassankusu, province de l'Équateur. Nous en parlons avec notre invité, le député provincial Clovis Elongama, élu de la région qui appelle à l'intervention du gouvernement et des humanitaires. Sachez tout d'abord que la situation demeure confuse dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. La journée de ce samedi a été marquée par des scènes de pillage perpétrées par un groupe de jeunes armés et non clairement identifiés. Selon plusieurs sources locales, ces jeunes civils se servent des armes qu'ils ont récupérées dans un dépôt d'armement au camp militaire Sayo de Bukavu. En même temps, la tension était perceptible dans la partie sud de Kamanyola jusqu'à Uvira. Là, les jeunes patriotes Wazalendo ont procédé aux fouilles des véhicules avec comme objectif de vérifier les armes. Ces jeunes ont même tenté de ravir les armes aux militaires réguliers qui quittaient Bukavu en direction d'Uvira. Et puis, le candidat djiboutien Mahmoud Ali Youssouf vient d'être élu président de la Commission africaine de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est samedi après-midi, 15 février. Il a emporté au 7e tour avec 33 voix sur 49. À 59 ans, l'actuel ministre des Affaires étrangères du président djiboutien succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat à la tête de l'organisation s'achève le 15 mars prochain. Sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine a été officiellement annoncée par la République de Djibouti en avril 2024. Cette annonce mettait en avant son expérience et sa connaissance approfondie des mécanismes de l'organisation continentale. L'élection de Mahmoud Ali Youssouf intervient à un moment crucial pour l'Union africaine qui doit faire face à des conflits régionaux persistants, notamment en République démocratique du Congo. À toutes et à tous, bonsoir. L'impasse doit cesser et le dialogue doit commencer. C'est en tout cas l'essentiel du discours du secrétaire général des Nations Unies lors de la session d'ouverture du sommet de l'Union africaine hier vendredi à Addis Abeba. Antonio Guterres dit craindre l'embrasement de toute la région en raison des poursuites des offensives du M23. D'autres détails avec vous, Askin Zigbia Tayoro.
À cette réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la position d'Antonio Guterres est claire. Selon lui, en République démocratique du Congo, le peuple congolais a souffert une fois de plus d'un cycle brutal de violence. Et les combats qui font rage dans le sud Kivu, en raison de la poursuite de l'offensive du M23, menacent de précipiter toute la région dans le gouffre. Pour le secrétaire général de l'ONU, l'escalade régionale doit être évitée à tout prix. Il n'y a pas de solution militaire, a-t-il déclaré. Antonio Guterres dit que l'impasse doit cesser et que le dialogue doit commencer. Dans son allocution lors de la session d'ouverture de ce sommet, le secrétaire général des Nations Unies affirme que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. D'après lui, les conclusions du récent sommet conjoint de l'EAC et de la SADC offrent une voie à suivre avec un nouvel appel à un cessez-le-feu immédiat et un nouvel élan pour les efforts régionaux basés sur les processus de Luanda et de Nairobi. Antonio Guterres précise que le moment est venu de mettre en œuvre rapidement ces mesures. Il rassure le partenaire à compter sur le soutien continu des Nations Unies, y compris la MONUSCO.
Askin Zigbia Tayoro sur la radio de la paix, devant les chefs d'État africains réunis au 38e sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a mis en lumière les affres de l'agression rwandaise dans l'est du pays. Elle a également appelé à plus de solidarité pour préserver la souveraineté des pays d'Afrique. Plus de détails dans cet élément de Karine Topéridassi rendu par Jordan Blaise Shindani Kambala.
Dans son propos liminaire, Judith Suminwa a fait part de la préoccupation de la RDC face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a expliqué que des milliers de personnes endurent des souffrances inexplicables à cause de la guerre et vivent dans une grande précarité et dans des conditions inhumaines et dégradantes. Devant les chefs d'État africains, la première ministre de la RDC a aussi accusé le Rwanda d'engendrer une nouvelle rébellion, notamment l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, pour renverser les pouvoirs actuels. Elle a également rappelé que l'occupation illégale d'une partie du territoire national par les troupes rwandaises sous couvert du groupe rebelle du M23 constitue non seulement un acte de guerre, mais aussi une menace pour la stabilité de toute la région. Elle a en outre appelé à plus de solidarité entre États du continent noir et a demandé au Conseil de l'Union africaine d'agir avec fermeté, insistant sur le fait que laisser cette agression sans réponse adéquate créerait un précédent dangereux pour l'Afrique. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a également pris part à cette rencontre.
Restons un tout petit peu à Addis Abeba en Éthiopie, où la première ministre Judith Suminwa a refusé de s'afficher sur la photo des familles de la session de l'Union africaine qui n'a pas toujours été attentive aux accusations de la RDC contre le Rwanda, qui s'est spécialisée dans la déstabilisation permanente de son voisin pour des raisons de prédation et d'ingérence flagrante dans les affaires internes, a constaté l'agence congolaise de la presse ACP. Sur la photo officielle des familles, la chef du gouvernement congolais Suminwa, qui représente le président Félix Tshisekedi, n'y est pas. On ne peut pas s'afficher avec ceux qui nous agressent et ceux qui brillent par leur hypocrisie comme si on était réellement une famille. La RDC est agressée. On doit le comprendre, a réagi un conseiller à la présidence congolaise selon la même source. Alors que les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC, notamment dans les territoires décalés au sud Kivu, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR redoute un nouvel afflux de personnes déplacées vers Bukavu. Blaise Shindani Kambala nous en parle.
Selon les HCR, ce mouvement de population pourrait être suivi par d'autres au fur et à mesure que les combats s'étendent. Alors qu'environ 100 000 personnes ont tenté de retourner dans leur région d'origine, où les maisons ont été endommagées et où les services essentiels sont rares, voire inexistants, de nombreuses autres restent bloquées dans des centres collectifs, des sites des personnes déplacées endommagées ou dans des communautés d'accueil. Selon les HCR, la peur des munitions non explosées, les maisons détruites et le manque de services essentiels sont des obstacles importants à un retour en toute sécurité des déplacés. Plus largement, la crise s'aggrave à mesure que les gens fuient vers des zones où l'aide humanitaire ne peut les atteindre en raison de l'insécurité. À cette fin, l'agence onusienne a appelé à une cessation immédiate des hostilités afin d'assurer la sécurité des civils, y compris des personnes déplacées. Le HCR a également exhorté toutes les parties à cesser les attaques contre les infrastructures civiles et à garantir un accès humanitaire sans entrave.
Merci à vous, Jordan Blaise Shindani Kambala. Pendant ce temps, la ville de Goma n'est pas très vivable depuis les soubresauts consécutifs aux affrontements entre l'armée nationale et les rebelles du M23 à fin janvier et début février 2025. En dépit des efforts de nettoyage, Goma coule sous les immondices. L'air ne semble pas pur pour être respiré, alors que rien ne rassure sur la qualité de l'eau du lac pour la consommation des ménages, confient quelques habitants de Goma. Chris Mukand.
L'eau propre à la consommation est encore une denrée rare pour plusieurs quartiers de la ville de Goma. Kasika, Ndosho, Katoy, Mabanga, Bujovu et plusieurs autres parties de la commune de Karisimbi ne voient pas l'eau couler au robinet. Les propriétaires de camions citernes que proposent à travers les quartiers de l'eau à vendre prennent le pas pour reprendre l'exploitation de leurs engins. L'association Taji Initiative, qui y a offert gracieusement de l'eau aux habitants de ce quartier durant environ une semaine, dit que les moyens financiers sont épuisés. Alors qu'en défendant, les ménagères ont repris avec l'utilisation de l'eau non traitée du lac Kivu. Goma tente de maintenir sa réputation de ville la plus propre de la République démocratique du Congo. Chaque samedi, les habitants accomplissent les travaux communautaires d'assainissement. Les hautes herbes sauvages sont coupées, les caniveaux et drains sont curés. Cependant, aucun engin pour dégager les immondices. Les habitants se plaignent de la pollution de l'air, des odeurs fétides. On les croise à beaucoup d'endroits de la ville, attribuables à ces déchets non dégagés. Des senteurs de putréfaction continuent à envahir la ville de Goma, ce qui pousse certains habitants à toujours porter le cache-nez, redoutant attraper à tout moment une maladie qui favoriserait cet environnement irrespirable.
Ici, à Kinshasa, le gouverneur des provinces met en garde toutes les personnes qui menacent de troubler l'ordre public et de s'attaquer aux églises demain dimanche. L'autorité urbaine affirme que toute personne qui oserait semer des troubles ou tenter de piller des biens des particuliers croisera sur son chemin les forces de sécurité déjà mobilisées pour cette fin. On écoute Daniel Bumba dans cet extrait choisi par Karine Topé.
Ma communication se veut une communication pour rassurer les Kinoises et Kinois. Que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité. Je viens aussi renforcer les Kinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux, qui se veut prometteur de troubles, de manifestations. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise, et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures. En tout cas, les forces de l'ordre sont disposées à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner, mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire que tout fidèle rendez-vous dimanche à l'église et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions.
Nous sommes dans la province du Tanganyika, nous l'avons dit au sommaire. Le calme est revenu vendredi après une vive tension qui a prévalu au village Kabulo sur l'axe Nyunzu, à 55 km de la ville de Kalemi, à la suite de la mort d'un Muzalendo. Face à cette situation, les Wazalendo se sont soulevés pour dénoncer la mort d'un des leurs. Ils ont barricadé la route Kalemi-Nyunzu au niveau du village Kabulo pendant plusieurs heures, bloquant ainsi le passage pour les commerçants, les agents humanitaires et d'autres personnes. Témoignage du président du mouvement citoyen Parlement des Debout Sans Tabou, Nathan Mugisho, au micro de Paul Mounanga.
Il y a un élément, Wazalendo, forcément constitué par les pygmées, qui a été tué. Sa mort serait causée par un militaire. Et cela a suscité une vive tension dans ce village et ses environs. Cela a aussi occasionné les blocages de passage de toute moto en provenance de Nyunzu et toute moto aussi en provenance de Kalemi, de même que le véhicule. Ainsi donc, plusieurs personnes se sont retrouvées arrêter leur passage et aussi dans une situation d'inquiétude suite à la demande de l'un des leaders de ces Wazalendo, le passage a été ouvert aux environs des 9h, heure locale de Kalemi. Cette situation d'insécurité ne cesse d'inquiéter la population pendant ce moment où notre pays est en guerre. Tout ce que nous voulons ici à Kalemi, dans la province du Tanganyika, c'est de voir l'appareil, les systèmes sécuritaires répondre au moins aux besoins de la population.
Santé. Le coordonnateur de la cellule technique du secrétaire général de la santé publique encourage les parents à diagnostiquer à temps leurs enfants du cancer pour les sauver. Dr Théodore Assani Saloubeza a lancé cet appel hier en marge de la journée mondiale de lutte contre le cancer pédiatrique célébrée le 15 février de chaque année. Il a également assuré que le gouvernement garantit la prise en charge des patients souffrant des cancers. Dr Théodore Assani au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
On est venu partager avec le monde universitaire, et en particulier le médecin à devenir, le professeur et le CNC, sur l'existence des cancers pédiatriques. On a excité les cliniciens et même les élèves, les étudiants qui sont en formation, pour qu'ils aient ces réflexes de penser au cancer chez les enfants. On est passé en revue les cancers les plus fréquents chez les enfants. Ce que ça donnait comme impression, c'est que beaucoup de gens pensaient comme le cancer est très rare, n'arrive pas souvent chez eux. Les gens ont peur, ils pensent qu'ils composent le diagnostic du cancer, c'est seulement la mort. Ici, on a suscité l'espoir de dire quand les cancers de l'enfant sont diagnostiqués très tôt, ils guérissent à 80%. Dans le cadre de la couverture santé universelle, le pays s'est engagé depuis 2020 novembre à organiser un centre national de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, depuis 2021, le gouvernement de la République achète les anti-cancéreux. Et le rayonnement de la prise en charge aujourd'hui des cancers est garanti au sein des cliniques universitaires.
Sachez qu'ici à Kinshasa, cette journée a été organisée par le Centre national de lutte contre le cancer sous le thème « Inspirer l'action » au cours d'une conférence débat à l'université de Kinshasa. Merci de nous écouter à Kindu, dans la province du Maniema, où les personnes vivant avec handicap plaident pour la prise en charge de leur père se trouvant au Nord Kivu, plus précisément à Goma. Ils ont lancé ces messages après leur assistance aux malades et handicapés du centre AMCA dans le cadre de la fraternité chrétienne intercontinentale des personnes malades et handicapées. Ces derniers ont amené des vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe à ces malades. On écoute le coordonnateur provincial ad intérim de la fraternité chrétienne intercontinentale des personnes malades et handicapées du diocèse de Kindu, Moke Chabani, au micro de Florence Kizalunga.
La fraternité chrétienne intercontinentale des personnes malades et handicapées a vu jour dans le diocèse catholique de Verdun pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'initiateur avait prôné l'amour du prochain fondé sur la parole de Dieu. C'est pour cette raison que vous nous trouvez dans ce centre AMCA de Kindu pour visiter les malades qui s'y trouvent. Nous leur avons apporté d'abord les vivres et les non-vivres. Il y a aussi un peu d'argent que nous avions porté pour ces malades. Et nous leur avons apporté aussi la parole de Dieu associé à la prière. Cependant, je profite de votre micro pour un peu monter ces cris d'alarme aux autorités pour trouver une solution urgente pour la situation que nos handicapés, nos confrères qui se trouvent à Goma sont en train de traverser. Parce que les handicapés, toutes tendances confondues, sont en difficulté dans le Nord Kivu et plus précisément à Goma. Pour les handicapés, nos confrères qui se trouvent à Goma, nous vous disons que nos frères, nous sommes de cœur avec vous. Ne restez pas dans la distraction. Persévérez dans la prière avec le Seigneur, car quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra.
Actualité internationale.
La rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture, Alice Jill Edwards, a constaté une surpopulation carcérale dramatique et inhumaine après une visite d'une dizaine de jours au Sénégal. Elle appelle les autorités à prendre d'urgence des mesures pour garantir des conditions de détention dignes.
L'invité.
Situation étrange dans le groupement des Bomati à Bassankoussou, province de l'Équateur. Des populations qui fuient leur entité depuis bientôt un mois à cause de symptômes jusqu'ici inexpliqués. Des symptômes qui se manifestent par des fièvres, maux de tête et frissonnements, conduisant très souvent à la mort en moins de deux jours. Le député provincial Clovis Elongama, qui alerte à Radio Okapi sur cette situation, appelle à l'aide et explique ici ce qui lui est rapporté de cette problématique. Le lieu de Bassankoussou, Clovis Elongama, s'entretient avec Donna Madimba.
Clovis Elongama Elambo, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Qu'avez-vous exactement aperçu et selon vous, de quoi s'agit-il?
Bon, nous avons remarqué depuis le 27 janvier, il y a les cas de mortalité dans un groupement situé à 22 km du centre ville de Bassankoussou qui s'appelle Groupement Bomaté dans les secteurs de Bassankoussou. Et les cas de mortalité là se justifient par le fait que les gens souffrent simplement de fièvre, de frisonnement, de maux de tête et après il y a transpiration, les gens meurent comme ça. Les gens meurent comme ça. On ne connaît pas l'origine vraiment de cette maladie et on se pose des questions. Et dans l'entretemps, cette situation a provoqué ce qu'on appelle exode urbain, exode rural, pardon, les gens quittaient leur groupement d'origine pour se rendre dans les centres-villes de Bassankoussou ou dans les groupements environnants.
Que constatent exactement les gens? Est-ce que les gens rapprochent ces symptômes à une maladie précise qu'ils connaissent ou connue dans la région?
Non, non, jusque-là, on ne connaît pas le nom de cette maladie, on ne connaît même pas l'origine de cette maladie. D'un côté, on allègue qu'il y a un féticheur qui fait ses incantations là-bas. Il a amené des trucs, des gris-gris, qui font qu'il a jeté dans des toilettes, tantôt dans des sources, où quelqu'un, s'y passe par là directement, il est attrapé par ces gris-gris et il trépasse. Ou il manifeste des symptômes que je viens de citer, dont notamment le frissonnement, la fièvre, les courbatures, la transpiration, et après la personne décède. Mmh. Ça fait maintenant peur, ça effraie tout le monde finalement, et dans un petit délai, donc entre 15h, 24h, quelqu'un décède comme ça, ce n'est pas une maladie qui prend du temps dans le corps humain. On a jusque-là enregistré au moins 54 morts.
Dans ce genre de situation, les autorités sanitaires ou médicales doivent se dépêcher pour apporter des éclairages. À votre connaissance, que disent les experts médicaux? Est-ce que vous les avez contactés pour évoquer avec eux cette situation?
Effectivement, nous avons contacté d'abord le médecin chef des zones, hein, de Bazangoussou, qui est sur place et qui s'est rendu à deux reprises dans les lieux où se passe cette drame. Il a été là à deux reprises, mais lui, techniquement, il m'a dit, honorable, voilà la situation telle qu'elle se présente, c'est telle que je vous relate là. Il m'a dit, on n'arrive pas à comprendre l'origine de cette maladie.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur place, selon les informations que vous avez, à ce jour, en attendant d'avoir des éclairages nécessaires, est-ce qu'il y a des dispositions ou des dispositifs qui sont pris pour limiter la situation?
Jusque-là, ce qui est dangereux, c'est que jusque-là, aucune disposition concrète n'est prise. Aucun dispositif n'est placé là-bas jusqu'à présent. J'ai contacté le gouverneur des provinces de l'Équateur, j'ai contacté le ministre national de la Santé, M. Roger Kamba, que je n'ai pas eu au téléphone malheureusement. Je ne sais pas s'il est au pays ou en dehors du pays, comme il y a des urgences aussi au niveau de l'Est. Mais au niveau provincial, quand j'ai contacté le gouverneur, il m'a dit qu'aujourd'hui, il va dépêcher une équipe mixte qui sera composée des agents du gouvernorat ou de l'exécutif provincial et de l'OMS pour aller d'un côté assister cette population qui est en déplacement et de l'autre côté chercher à comprendre vraiment de quoi il s'agit par sur les plans techniques. Donc plus de 1000 personnes ont quitté le groupement Bomaté, ils se sont rendus à pied jusqu'à Bassangoul. Les gens se sont réfugiés, certains dans les églises, les autres dans certaines familles, alors que là, ils sont méprisés du fait qu'ils sont suspectés d'avoir ce virus-là. Je sollicite vraiment l'implication, l'intervention urgente des organismes humanitaires et des autorités, tant nationales que provinciales, pour essayer un peu de mettre fin à cette situation. Et hier, à 21h, sur l'avenue Tribunal, à Bassangoussou, Mme Mboyo a donné naissance à une fille sur la chaussée. C'est vraiment inhumain, c'est vraiment malheureux.
Honorable Clovis Elongama Elambo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, M. Dona Madimba.
Notre invité est interrogé par Dona Madimba, comme vous l'avez suivi. Ainsi prend fin ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Billy Landry Bitou. Grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci.